C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
Certaines régions du monde semblent intemporelles, comme si le temps ne s'y écoulait pas au même rythme qu'ailleurs. C'est le cas de la République slovaque. Cet État indépendant naît de l'éclatement de la Tchécoslovaquie en 1993. Sur le plan géographique, la Slovaquie apparaît comme une enclave au cœur de l'Europe centrale. Au nord se trouve la Pologne, à l'est l'Ukraine, au sud la Hongrie et à l'ouest l'Autriche et la République tchèque, un territoire de moins de 50 000 km² avec, pour capitale, Bratislava. Partout où porte le regard, le paysage est dominé par les magnifiques reliefs des montagnes et des piémonts, les Carpates, les Balkans et les Tatras. Un paysage grandiose où les vastes forêts de conifères succèdent aux cimes des garnis. La Slovaquie, c'est aussi une histoire. Une histoire sanglante. Déjà, au milieu du Moyen Âge, les puissances du Saint-Empire romain germanique, le royaume de Moravie et la Pologne se disputaient la souveraineté de ces territoires. Mais c'est surtout à la Renaissance que ces terres sont devenues d'importants enjeux politiques et stratégiques. Au XVIe siècle, une grande partie de l'actuelle République slovaque était annexée à la Hongrie, qui formait alors un croissant au sud de la Pologne, de la Cilicie, de la Moravie et de l'Autriche. Au sud s'étendait la Serbie, alors occupée par les Turcs ottomans. Cette géographie particulière faisait de la Hongrie une zone tampon entre l'empire des Habsbourg, principalement viennois et catholiques, et celui des Turcs ottomans, par définition islamistes. En ces heures troubles, on guerroyait beaucoup à l'est des Petites Carpates et des Carpates blanches. Les champs de bataille, vastes mouroirs à ciel ouvert, s'étendaient des eaux du lac Balaton au sud-est de Bratislava aux forêts de la Transylvanie, situées à l'extrême est du croissant hongrois. C'était une époque à la fois violente et héroïque. Les plus courageux, mais aussi les plus cruels, ne manquaient pas d'occasion pour assouvir leur définition de la guerre. On raconte que le capitaine John Smith, l'époux de la légendaire Pocahontas, aurait pris part à certaines de ces batailles, du côté des Habsbourg, bien sûr. C'est ici que commence notre histoire. Nous sommes le 29 décembre 1610. Dans cette Hongrie déchirée par la convoitise des uns et des autres, le sang ne coule pas que sur les champs de bataille. Quelque part le long du Va, cette rivière marquant plus ou moins la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, des hommes armés se préparent à investir un manoir du petit village de Kastich, dans les Carpates blanches. À la tête de cette milice, le comte Gorgi Turso, le seigneur palatin de la Hongrie. Dans quelques minutes, l'un des plus monstrueux personnages de l'histoire sera enfin mis aux arrêts. Il ne s'agit pourtant ni d'un chef de guerre, ni d'un dictateur politique, mais d'une femme. Erzsébet Báthory, la comtesse de sang. En cette froide soirée hivernale, donc, un détachement de soldats, certains à chevaux, d'autres à pied, s'avance vers le manoir qui occupe tout un côté de l'esplanade centrale. Curieusement, malgré que la soirée soit encore jeune, les rues sont désertes. L'arrivée de ces hommes n'est pourtant pas passée inaperçue. Derrière leurs volets entrebâillés, les villageois suivent en silence le déploiement de ces soldats. On ose à peine y croire. Cette milice ne peut être que pour la comtesse. Parmi ces hommes, plusieurs paysans reconnaissent le comte Turso, toujours vêtu richement et coiffé de son éternel chapeau en poil d'ours. Turso est le seigneur palatin du pays, un titre qui, en l'absence du souverain Matthias II, roi de Hongrie et empereur du Saint-Empire romain, lui confère tous les pouvoirs juridiques et judiciaires. À la lueur des torches, dont les flammes donnent à toute chose un curieux reflet rougeâtre et inquiétant, le spectacle de ce déploiement a quelque chose d'irréel. De l'autre côté de l'esplanade, à l'orée de la forêt, d'autres hommes s'avancent sur le sentier. Bientôt, tout le manoir est encerclé. Pour la comtesse Erzsébeth Nadasty, née Báthory, le sort en est jeté. Dans la grande cour du manoir, deux hommes montent la garde. À leurs pieds, comme des cerbères échappés de l'enfer, des chiens cuvasses, des chiens blancs et massifs originaires d'Europe centrale, veillent aussi sur l'antre. Soudain, comme sortis de nulle part, le comte Turzo et ses hommes envahissent la cour et demandent aux gardes de les conduire auprès de leur maîtresse. Le ton est sans équivoque. Et entre la colère de leur maîtresse et l'ire du palatin, les gardes préfèrent céder au seigneur. Près de l'entrée, les soldats découvrent le corps nu d'une certaine Doritza Zalaeova, l'une des servantes de la comtesse. La jeune femme, venue du village de Redneck en Croatie, a été battue à mort et à coups de bâton et poignardée avec des cisailles. On apprendra plus tard que sa maîtresse la suspectait de lui avoir volé une perle. La comtesse n'a même pas cherché à dissimuler le corps de la suppliciée. Plus loin, au détour d'un vestibule, les hommes aperçoivent les cadavres nus de deux autres femmes, deux autres victimes. Les corps présentent des traces de violence et de torture.
« C'était donc vrai »,
murmurent les nobles qui marchent à la suite du comte Turzo.
« Toutes ces rumeurs de meurtre, qui l'aurait cru ?»
Dans la grande salle à dîner, la comtesse Erzsébeth Báthory et ses convives sont encore attablés lorsque fait irruption le représentant du roi. La maîtresse des lieux, qui dans la pénombre de cette pièce chichement éclairée, n'a pas encore reconnu le comte, se dresse d'un bond. Choquée par cette intrusion, elle demande à ses visiteurs de décliner leur identité. Sans broncher, le palatin détaille la grande pièce. Au pied de la comtesse, gît le corps nu et mutilé d'une autre femme. À l'autre extrémité de la salle, trois autres femmes nues, ligotées et bâillonnées, sont étendues sur le sol. Plongeant son regard dans celui de la comtesse, Turzo lui annonce qu'il est là à la demande du roi de Hongrie, qu'il est là pour ramener la justice en ces lieux. Se détournant de la comtesse, l'émissaire ordonne à ses hommes de mettre aux arrêts la mégère et ses acolytes. Ses servantes, Ilona Jo, Dorotas Ventes et Catalin Beniki, ainsi que son domestique, le difforme Jano Ujvari, dit Fisco. Tous sont suspectés d'avoir participé au jeu macabre de leur maîtresse. Les domestiques sont amenés à Bitka, au nord de Kashtish, sur la rivière Va, siège du pouvoir palatin. Quant à la comtesse, elle est conduite à son château de Kashtish, qui domine la région. Elle y sera détenue dans l'attente de son procès, un procès auquel elle ne sera d'ailleurs pas invitée. Alors qu'il regarde s'éloigner le carrosse qui emporte la comtesse vers sa geôle improvisée, le comte Turzo réfléchit au terrible crime que l'on reproche à sa captive. Et il se demande
« Comment est-ce possible? Comment devient-on l'un des pires assassins de l'histoire? »
Erzsébeth Báthory naît en 1560 à Aix, tout près de la frontière entre la Hongrie et la Transylvanie, le fief des Báthory. Fille de Gheorghe et Anna Báthory, l'enfant se retrouve l'héritière de l'une des plus importantes fortunes de la noblesse hongroise. À travers d'inextricables alliances, la petite Erzsébeth compte parmi ses parents des personnages influents, des cardinaux, des princes et des ministres. L'un de ses cousins n'est nul autre qu'Étienne Ier, le prince de Transylvanie, qui deviendra plus tard roi de Pologne. Mais sa famille compte aussi son lot de psychotiques et de lunatiques. Son frère, Stéphane, est un alcoolique et un pervers. Il souffre également de crises violentes et de convulsions, probablement d'épilepsie. Un mal dont souffre apparemment aussi la petite Erzsébeth. L'un de ses oncles est un adorateur du diable et sa tante Clara, une bisexuelle débauchée. Un autre de ses oncles, Gabor, présente des troubles de la personnalité et se réveille souvent la nuit pour combattre d'invisibles assaillants. Ses crises sont parfois si violentes que les domestiques doivent l'attacher à son lit pour éviter qu'il ne se blesse. La petite enfance d'Erzsébeth se déroule à peu près normalement. Elle est intelligente et apprend vite. Contrairement à bien des enfants de son rang, qui ne reçoivent qu'un minimum d'éducation, la jeune Bathory est lettrée. Non seulement apprend-elle à lire et à écrire le hongrois, mais elle apprend aussi le latin et l'allemand. Son éducation est de loin supérieure à celle de bien des aristocrates. Mais c'est un événement à la fois brutal et insolite qui va révéler à la fillette cette perversion qui la hantera le reste de ses jours. L'incident se déroule au château familial à Aix. Erzsébeth n'a pas encore 10 ans. Un matin, elle est réveillée par un brouhaha inhabituel. Elle apprend qu'un homme va être jugé pour avoir vendu 2 de ses enfants à l'envahisseur ottoman. Intriguée, la fillette se rend sur la mezzanine qui surplombe la cour. Les audiences sont sur le point de commencer. Devant 3 hommes attablés, des soldats amènent le prisonnier, pieds et poings liés. Ses vêtements sont en lambeaux et son visage porte des signes de brutalité. Il s'agit de l'un de ces tziganes qui, la veille, sont venus jouer de la musique au château pour le comte et ses invités. Après un procès expéditif, l'accusé est reconnu coupable et condamné au supplice du cheval. Ce châtiment consiste à coudre le supplicié à l'intérieur d'une carcasse de cheval éviscérée, en ne laissant sortir que sa tête par l'anus de l'animal. Ce macabre cheval de Troie est alors abandonné en forêt où les prédateurs et la vermine vont le dévorer, et avec lui, son locataire. Cette fois, non seulement la petite Erzsébeth est-elle témoin de la préparation du cheval, mais le jour même, elle se rend en forêt où pendant un long moment, elle assiste à l'agonie du supplicié. Les images de ce moribond, entravé comme un fœtus à l'intérieur de cette carcasse couverte d'asticots, ne la quitteront plus jamais. En 1574, un vent de scandale souffle sur la famille Bathory. La jeune Erzsébeth, qui n'a que 14 ans, est enceinte, conséquence d'une brève liaison avec un garçon du village. L'affaire est d'autant plus embarrassante que l'adolescente est depuis longtemps promise au fils Nadasti, le comte Farinck. Quoique moins fortunés que les Bathory, les Nadasti appartiennent à une longue lignée d'aristocrates hongrois. Leur domaine s'étend au sud du Danube, sur la rive gauche de la rivière Raba. Entre autres propriétés, les Nadasti possèdent un imposant château à Sarvar. Le père du jeune Farinck, Thomas, s'est surtout illustré sur les champs de bataille, comme le fera plus tard son fils. Son dévouement pour la Hongrie lui a valu le titre de leur palatin, titre qu'assumera plus tard Gyurgyi Thurso, responsable de l'arrestation d'Erzsébeth Bathory. Lorsque la grossesse de la jeune Erzsébeth se fait trop évidente, l'adolescente est envoyée quelques mois dans un domaine reculé des Bathory, en Transylvanie. Elle en reviendra libérée. Le rejeton, une fille, ayant été confiée à des paysans de Valachie, une actuelle région du sud de la Roumanie, avec une rente suffisante pour pourvoir à ses besoins. Le mariage entre Erzsébeth Bathory et Farinck Nadasti est célébré le 8 mai 1575. Tout le gratin de la haute bourgeoisie hongroise y est présent. Même l'empereur du Saint-Empire romain, Maximilien II, y fait envoyer une importante délégation pour le représenter. Erzsébeth et le comte Farinck sont alors âgés respectivement de 15 et 20 ans. Pour le jeune Nadasti, le temps est venu de suivre les traces de son père. Il s'engage dans les armées de l'empereur. Pendant que Farenc et ses compagnons d'armes repoussent l'invasion turque, Erzsébet voit aux affaires familiales courantes. Elle s'occupe surtout de discipliner ses servantes, et ce, avec une cruauté grandissante. Elle leur enfonce des aiguilles sous les ongles, dans les lèvres et même dans leurs parties intimes. À d'autres occasions, elle fait ligoter l'employée fautive avant de lui placer des bouts de papier enflammés entre les orteils. Pour la cruelle comtesse, ces tortures sont un remède contre la morosité de ces longs hivers hongrois. Au fil des ans, elles s'entourent de domestiques qui, soit pour échapper au joug de leur maîtresse, soit par simple plaisir pervers, se font ses complices. Parmi eux, il y en a Joe Nagy, Dorota Sventes, surnommée Dorco, et le jeune Janos Usvari, dit Fisco, un adolescent difforme et défiguré. Tous seront ultimement arrêtés lors de la rafle du Lord Palatin en décembre 1610. Durant les 10 premières années de leur mariage, Erzsébet et Farenc n'ont aucun enfant. Il est vrai que le jeune comte passe le plus clair de son temps sur les champs de bataille, où il a d'ailleurs acquis une solide réputation. Les soldats turcs, qui le surnomment le Chevalier Noir, le craignent et le respectent. Puis, en 1585, Erzsébet accouche d'une fille qu'elle prénomme Anna, probablement en mémoire de sa mère décédée. Au cours des années qui suivent, elle donne naissance à deux autres filles, Ursula et Cataline, et deux garçons, Andras et Pâle. Andras mourra en 1603 et Ursula à une date indéterminée. Nous savons toutefois que dans un testament rédigé en 1610, Erzsébet identifie seulement trois enfants encore vivants, Anna, Cataline et Pâle. Pâle, destiné à devenir l'héritier de l'Empire Báthory Nádasdy, est rapidement confié à une nurse, Iliona Jo, qui deviendra l'une des plus fidèles complices de la comtesse, puis à un tuteur, Sir Emre Migari. Étrangement, alors qu'elle fait preuve d'une inqualifiable cruauté envers ses domestiques, Erzsébet se révèle une mère attentionnée et dévouée. Le paradoxe du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. À la même époque, la châtelaine embauche une paysanne de Sarvar, une certaine Anna Darvulia. Un lien très intime va se tisser entre les deux femmes. Darvulia va non seulement devenir l'amante et la principale confidente d'Erzsébet, mais elle va aussi l'initier à une kyrielle de nouvelles tortures, toutes plus raffinées les unes que les autres. L'un des supplices les plus appréciés de la comtesse est la statue de glace. Il s'agit d'un châtiment exclusivement hivernal. La victime est conduite en forêt, dévêtue et attachée à un arbre. Elle est ensuite arrosée et abandonnée au froid. Durant ce rituel, la comtesse passe de longs moments à contempler le visage grimaçant de la mort qui se fige sur les traits de la malheureuse. Chaque fois, l'épouvantable spectacle la plonge dans un état extatique, comme si l'agonie de ses victimes l'exorcisait de ses propres démons. Avec le temps, les mauvais traitements qu'impose la comtesse à ses domestiques deviennent de notoriété publique, que ce soit pour ses châteaux de Kachetiche, de Sarvar, ou pour ses lointains domaines de Transylvanie ou d'Autriche. La comtesse éprouve de plus en plus de difficultés à recruter de nouvelles domestiques et surtout à se débarrasser de ses victimes. Même les prêtres, qui au début acceptaient d'offrir à ces malheureuses une sépulture chrétienne, refusent maintenant de fermer les yeux sur ces abominations. La comtesse a beau prétendre que c'est la maladie qui a emporté ces jeunes femmes, les corps meurtris, eux, témoignent d'une toute autre histoire. Mais il en faut bien davantage pour freiner les pulsions meurtrières de la comtesse. Et si les prêtres refusent d'ensevelir ces malheureuses, la comtesse s'en chargera. Par souci d'économie, les corps sont d'abord gardés sous les lits, dans les celliers ou dans quelques pièces inutilisées de ces châteaux. Puis, lorsque l'odeur devient insupportable, la comtesse charge ses sinistres acolytes de disposer des cadavres qu'ils enterrent en catimini dans les bois ou même dans les cimetières locaux. Il faut dire que la comtesse n'en est pas à un outrage près. Mais tous ne voient pas ses crimes du même œil. Par exemple, s'ils ne les encouragent pas, le comte Nadasti ne les réprouve pas pour autant. Pire, il lui arrive même d'y participer. Un été, alors qu'il séjourne au château de Sarvar, le comte propose à son épouse une version estivale du supplice de la statue de glace. L'exercice consiste à recouvrir de miel le corps nu de la servante indisciplinée avant de l'attacher à un arbre pendant 24 heures. Certes, contrairement au supplice de la statue de glace, la malheureuse n'en meurt pas. Mais passer une nuit entière livrée aux insectes et à la vermine n'est pas non plus une sinécure. À l'automne de 1603, le comte Nadasti tombe malade. Il revient au château de Sarvar, où Ersebet se montre une nurse attentionnée. Mais son état s'aggrave rapidement. Il meurt le 4 janvier suivant. Il n'a que 49 ans. La comtesse ressort de cette épreuve plus cruelle et vindicative que jamais, comme si cela était encore possible. En 1605, la comtesse fait installer dans le cellier de sa résidence de Vienne un instrument de torture d'un raffinement diabolique. Il s'agit d'une sorte de cage cylindrique de 2 mètres de haut, sans fond, dont les barreaux sont munis de longues lames pointées vers l'intérieur. La cage, œuvre d'un maréchal ferrant, est suspendue à un système de cordes et de poulies qui permet de la remonter jusqu'au plafond. La suppliciée y est enfermée, nue, les mains attachées à un anneau placé dans la partie haute de la cage. Une fois l'ensemble hissé, la femme se retrouve suspendue, les pieds pendant à 2 mètres du sol, à l'intérieur de cette gueule d'acier dont les dents immobiles n'attendent qu'un geste maladroit pour la déchirer. Pour vivre, la suppliciée ne dispose que de ces quelques centimètres qui la séparent des pointes acérées. Ce n'est qu'à ce moment-là que le jeu peut commencer. De part et d'autre de la cage, les acolytes d'Ersebet, principalement Dorothea Sventes, Ilona Jo et Anna Darvulia, la favorite de la comtesse, s'amusent à brûler la femme avec des tisonniers portés au rouge. La douleur est insupportable. À chaque assaut, par réflexe, la captive se tortille, s'empalant bien malgré elle sur les lames de la cage. Elle est tailladée de partout. Son sang, qui s'écoule par ses nombreuses plaies ouvertes, se répand le long de son corps et, par le fond ajouré de la cage, tombe en grosses gouttes sur la comtesse, confortablement assise en dessous. Pour elle, le spectacle est jouissif. Cette monstrueuse cage d'acier, baptisée la Vierge de Fer, sera historiquement associée à la comtesse comme la mort est à la faux. Vers 1607, Anna Darvulia tombe malade au grand désespoir de la comtesse. Ni le repos, ni les bons soins des docteurs n'arrivent à la remettre sur pied. Elle est atteinte de paralysie et devient aveugle. Ersebet jette alors son dévolu sur une paysanne de Miava, que l'on dit aussi sorcière, une certaine Erzi Majorosne ou Majorova. C'est elle qui va précipiter la chute de la comtesse. Devant les problèmes de recrutement auxquels fait face sa maîtresse, Majorosne lui conseille de délaisser les paysannes slovaques au profit de jeunes filles hongroises, voire même d'adolescentes issues de la petite noblesse. Un conseil pour le moins mal avisé. Du temps d'Anna Darvulia, la comtesse n'aurait jamais passé outre ce décorum aristocratique. C'est là une décision qui va la perdre. À l'été de 1609, la comtesse invite 25 jeunes femmes, bien nées, à son château de Cachetiche. L'une d'elles n'en reviendra pas vivante. Au dire de la comtesse, la jeune fille aurait assassiné l'une des servantes du château pour une histoire de bijoux volés. Puis, réalisant la gravité de son geste, elle se serait suicidée. L'histoire est bien sûr une fable que plus personne ne croit. Dans les hautes sphères du pouvoir, Erzsébet Báthory est devenue un problème politique. Tant et aussi longtemps qu'elle se contentait de tuer des petites paysannes slovaques, les autorités étaient toutes disposées à fermer les yeux sur ses crimes. Mais les meurtres de jeunes hongroises, et de surcroît nées de bonne famille, ne sauraient demeurer impunis. L'étau se resserre inexorablement. Le 5 mars 1610, le comte Gyorgy Thurso, qui incidemment se trouve un cousin par alliance d'Erzsébet, ouvre une enquête sur les présumés crimes de la comtesse. Le 29 décembre, il lance un raid sur son manoir à Kastich. L'endroit, selon la comtesse, est plus chaud et plus douillet que son sinistre château qui domine le paysage. Erzsébet y est arrêté et placé en résidence surveillée. Quant à ses principaux acolytes, Dorotas Vientes, Fitzko, Ilona Joe et Kataline Benetsky, tous sont emprisonnés à Bitka, siège du pouvoir palatin. En janvier 1611, la haute cour de Bitka, composée de nobles et de magistrats, se réunit pour faire la lumière sur les crimes de la comtesse Báthory. La rumeur n'était que la pointe de l'iceberg. Plus d'une centaine de témoins défilent. La plupart ont vu disparaître une amie ou une parente entre les mains de la diabolique châtelaine. Puis il y a les aveux de ses complices. Des histoires abominables. Si une employée était suspectée de voler de l'argent, la comtesse l'obligeait à tenir dans sa main une pièce de monnaie chauffée au rouge. Si elle volait un autre bien, la châtelaine lui coupait les doigts ou la main. Si les cols des robes de madame n'étaient pas bien pressés ou empesés, la servante était brûlée au fer rouge. Et si une domestique tentait de fuir, elle était vite retrouvée et exécutée pour s'assurer de son silence. Que dire aussi du supplice de la statue de glace ou de la Vierge de fer, cette monstrueuse cage barbelée? Pour la comtesse, discipline était synonyme de torture. Incidemment, toutes ses propriétés comptaient au moins une pièce spécialement aménagée pour y discipliner ses domestiques. Que ce soit dans ses châteaux de Kastich, de Sarvar, de Lockenhaus, de Devin, de Becknov ou dans ses manoirs de Kastich et de Vienne. Il n'y avait apparemment aucune limite à la cruauté de la comtesse. Durant ses longues années d'horreur, Erzsébet aurait assassiné ou fait assassiner entre 50 et 650 femmes et jeunes filles, pour la plupart âgées entre 10 et 14 ans. À l'issue de ces audiences, les complices de la comtesse, Ilona Joe, Dorotas Vientes, Erzsi Majorosné et Janos Ujvári, dit Fisco, sont condamnés à mort. Seule Kataline Benetsky échappe à la peine capitale, les juges ayant trouvé son implication mineure. Quant à la comtesse, son rang lui évite l'ultime châtiment. Elle est condamnée à être emmurée pour toujours dans l'une des pièces de son sinistre château de Kastich. Pour le reste de son existence, son seul lien avec le monde extérieur sera cette petite ouverture où, chaque jour, ses geôliers lui apporteront sa pitance quotidienne. Précisons ici que la transcription des documents originaux ouvre la porte à plusieurs interprétations. Le mot utilisé est « bafalaz », ce qui signifie « emmuré ». Au XVIIe siècle, le même verbe signifiait aussi « emmuraillé » ou « cloisonné ». Dans le contexte actuel, la comtesse a pu être emmurée dans une pièce de son château, comme le raconte la légende, mais une interprétation plus large est aussi envisageable. Erzsébet a pu être emmuraillée dans son château, c'est-à-dire mise en résidence surveillée. Il n'y a aucune certitude et les documents sont trop flous à ce propos. Quoi qu'il en soit, le 21 août 1614, ses gardiens la retrouvent couchée face contre terre. La terrible comtesse de sang n'est plus.
Elle est morte, soudainement, sans croix et sans lumière,
écrira l'un de ses geôliers. Son corps est envoyé à Aix, le fief des Báthory, pour y être enterré sur les terres familiales. À Vienne, siège du puissant empire des Habsbourg, cet empire qui, par alliance, a sauvé la comtesse d'une humiliante exécution, la mort de l'infâme maîtresse de Cachetiche est accueillie avec soulagement. En apprenant la nouvelle, on raconte que l'empereur Mathias II, fils de Maximilien II, aurait demandé à ce que le nom d'Erzsébet Báthory ne soit plus jamais mentionné à la cour. Erzsébet Báthory, dossier 21081614. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. J'ai toujours été fasciné par les personnages maudits de l'histoire, et plus encore par ceux inspirés ou liés à l'univers du surnaturel. Gilles de Rais, Dracula et bien sûr la comtesse Erzsébet Báthory occupent les trois plus hautes marches de mon podium de vilains. Pour l'amateur d'histoire que je suis, ces personnages offrent un défi de taille. Peut-on objectivement séparer les faits historiques du folklore qu'ils ont inspiré? Au-delà du mythe, je me suis intéressé à l'histoire d'Erzsébet Báthory. Et comme le disait si bien Jean Cocteau, l'histoire est du vrai qui se déforme et du faux qui s'incarne. En 2008, je me suis donc offert une visite dans les fiefs d'Erzsébet Báthory. Je me suis d'abord rendu en Autriche, puis en Slovaquie et en Hongrie. Dans ces pays, les références géographiques associées à la comtesse sont nombreuses. Il faut savoir qu'au lendemain de son arrestation, plusieurs des domaines de la comtesse ont été saisis, soit par la succession légale des familles Báthory et Nadasti, soit par l'État, c'est-à-dire le comte Turceau. La plupart de ces propriétés existent toujours. Si certaines ne sont plus que des ruines, d'autres, en revanche, sont encore habitées et présentent tout leur panache d'antan. C'est le cas, par exemple, du château de Lockenhaus, situé dans les montagnes du Burgenland, au sud de Vienne, en Autriche. Déjà au XIIIe siècle, l'endroit était connu comme un point de ralliement des chevaliers de l'Ordre du Temple. Ce sont d'ailleurs les Templiers qui, les premiers, y ont érigé un ensemble de fortifications. Après la dissolution de l'Ordre, en 1311, la forteresse a été réaménagée en un imposant château qui, encore aujourd'hui, domine les monts Gunzer. Avec ses hautes tours carrées, caractéristiques des châteaux d'Europe centrale, le château de Lockenhaus, propriété nationale depuis 1968, est maintenant un hôtel et une attraction touristique. À la fin du 16e siècle, l'endroit était la propriété du couple Báthory-Nadasti. On ignore combien de jeunes femmes y ont été assassinées, mais il est notoire que la comtesse y séjournait fréquemment lors de ses voyages en Autriche. On raconte d'ailleurs que l'une des cryptes du château, celle de la famille Nadasti, serait toujours hantée par le fantôme de la diabolique comtesse. J'ai dormi dans le château de Lockenhaus, mais je n'y ai vu aucun spectre, sauf celui de l'infamie, devant une réplique de la Vierge de Fer, cette machiavélique cage barbelée imaginée par Erzsébet et conservée dans une pièce du château. Lors de ses voyages en Autriche, Erzsébet Báthory partageait son temps entre son château de Lockenhaus et sa maison de Vienne, située sur la Augustinerstrasse. Originalement, l'endroit était un monastère. Puis, en 1531, les moines ont vendu la maison pour emménager dans un édifice plus spacieux, situé juste en face. On ignore quand Erzsébet est devenue la propriétaire des lieux. Nous savons, en revanche, que c'est dans le cellier de cet ancien monastère qu'elle a fait usage pour la première fois de sa Vierge de Fer.
Parfois, les cris montant des caves étaient si forts que les moines, logeant en face, lançaient littéralement leur peau de chambre sur la maison en signe de désapprobation. Hélas, le statut aristocratique d'Erzsébet les empêchait de la dénoncer promptement aux autorités. Aujourd'hui, la maison, connue sous le soubriquet de Ungarisch Haus, maison hongroise, abrite les locaux de la librairie de l'Institut autrichien pour l'étude de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. À 2 heures de route de Vienne, de l'autre côté de la frontière slovaque, se trouve la petite ville de Sarvar. Au 16e siècle, l'endroit était au cœur de l'Empire Nadasti. La ville, qui compte aujourd'hui un peu plus de 16 000 habitants, offre au nombre de ses attraits touristiques le château Nadasti. L'édifice moyenâgeux, qui se caractérise par un long pont qui enjambe des douves peu profondes, fait maintenant office de musée. Du temps d'Erzsébet, le château de Sarvar était la plus importante propriété du couple Báthory-Nadasti au sud de Bratislava. C'est à l'ombre de ses murs que la comtesse a fait la connaissance de son alter ego, Anna d'Arvulia, véritable émule d'Elsa Koch, la louve des SS. Ensemble, elles ont fait du château de Sarvar le théâtre de leur jeu ignoble. Mais de toute la République slovaque, c'est le petit village de Kaštiš, 3500 habitants à l'ouest du Va, qui reste le plus marqué de l'empreinte de la Báthory. Dans cette région, encore très rurale, deux icônes rappellent la terrible comtesse. Il y a d'abord les ruines de son manoir situé à même le village de Kaštiš. C'est dans ce manoir qu'Erzsébet a été arrêtée le 29 décembre 1610. Aujourd'hui, il ne reste du bâtiment que quelques fragments des murs d'enceinte et une petite cour. Cet espace donne toujours sur un important labyrinthe souterrain, encore en très bon état, où jadis la comtesse torturait et tuait ses victimes. Ce dédale est d'ailleurs si complexe qu'il est déconseillé de s'y aventurer seul. Enfin, sur la colline qui domine le village, se dressent les imposantes ruines du château Báthory. Entre ces murs, des dizaines de jeunes femmes ont été torturées, mutilées et assassinées. Avec un peu d'imagination, je pouvais presque entendre encore leurs cris d'agonie. De son vivant, Erzsébet n'aimait pas particulièrement ce château qu'elle trouvait trop chaud et étouffant en été et trop froid et humide en hiver. Pour son confort personnel, elle préférait son manoir situé au village. Par contre, quand venait le temps de discipliner ses servantes, le château était tout indiqué. Après sa mort, le château est demeuré la propriété des Nadasti jusqu'en 1670, année où il a été incendié. Au 18e siècle, plusieurs successions se sont disputées sa propriété. Mais, devant l'importance des travaux pour le restaurer, le château a été définitivement abandonné. Depuis, il résiste aux intempéries, rappelant aux voyageurs le triste souvenir de la comtesse de Sang. En 1614, Erzsébet Báthory est morte dans son château de Kaštiš. Peu à peu, elle a fini par être oubliée. Puis, au 18e siècle, un prêtre jésuite, Laszlo Turoczy, a trouvé les documents originaux du procès qu'il a évoqués dans son « Histoire de la monarchie hongroise ». L'infâme maîtresse de Kaštiš débutait sa seconde vie, celle-là moins sanglante et beaucoup plus littéraire. Au fil des générations, Erzsébet Báthory est devenue une sorte de figure romanesque, un personnage de fiction entre le baron Frankenstein et le comte Dracula. Comme ces grandes figures de l'horreur, son personnage a maintes fois été porté au grand écran, notamment dans Comtesse Dracula en 1970, avec la ravissante Ingrid Pitt dans le rôle de la comtesse, et en 1971 dans Les Lèvres Rouges, avec Delphine Seyrig et la comédienne québécoise Danielle Ouimet un étrange dosage d'érotisme et d'horreur gothique. La terrible comtesse a même prêté son nom à un groupe de musique heavy metal et à un magazine consacré au macabre. Souvent, lorsque le crime est trop grand, on préfère croire à l'intervention de quelques forces obscures. On se plaît à imaginer d'inavouables complots. Évidemment, Erzsébet Báthory n'a pas échappé à ces spéculations. Certains auteurs ont écrit que la comtesse s'adonnait à la sorcellerie et au culte du diable, que le but ultime de ses crimes était de se baigner dans le sang de ses malheureuses victimes. Aux yeux de la comtesse, ses bains de sang auraient été l'ultime fontaine de jouvence. Elle se serait aussi livrée au cannibalisme et au vampirisme. Pour vérifier ses prétentions, je me suis rendu à Bitka, en Slovaquie, et à Budapest, en Hongrie, où sont toujours conservés les documents originaux du procès Báthory. Ces comptes rendus ont été écrits en hongrois, en slovaque, en latin et en allemand. En obtenir des traductions littérales est un travail à la fois laborieux et coûteux. Mais l'exercice m'a permis de dégager un portrait plus réaliste de la terrible comtesse. Dans une lettre datée de 1594, Erzsébet écrit à son époux, le comte Ferenc Nadasty, qu'une paysanne de Sarvar lui a enseigné une nouvelle recette de sorcellerie. Il a également été établi au procès que la comtesse aimait s'entourer de sorcières. C'est d'ailleurs sur ce critère qu'Erzsébet a recruté l'une de ses complices, Erzi Majorosné. Il ne fait aucun doute que la comtesse s'intéressait à la magie, mais rien ne prouve qu'elle s'adonnait aussi au satanisme. Sur son statut spirituel, nous savons seulement que la famille Báthory appartenait à une branche protestante, jugée d'ailleurs assez sévèrement à la cour des Habsbourg, radicalement catholique. Ces mêmes archives mentionnent que, dans ses excès de colère, la comtesse mordait à l'occasion ses victimes jusqu'au sang, leur arrachant parfois de gros morceaux de chair. Mais là encore, même si cette pratique a particulièrement choqué ces juges hongrois, rien ne permet d'affirmer que la maîtresse de Kastich se soit nourrie de chair ou de sang humain. Quant à ces soi-disant bains de sang qui ont valu à Erzsébet Báthory ce surnom de comtesse de sang, là encore, les documents de l'affaire judiciaire ne permettent pas de confirmer cette macabre pratique. Certes, la comtesse adorait torturer, mutiler, être souillée du sang de ses victimes. Mais rien ne permet d'affirmer qu'elle se soit jamais baignée dans le sang de jeune vierge pour préserver son obsédante beauté. L'idée de la magnifique comtesse se glissant nue dans un bain de sang relève beaucoup plus du fantasme de quelques écrivains de l'ère victorienne que d'une réalité historique. Quant au nombre des victimes, là aussi, la légende exagère les faits. En compilant les témoignages des acolytes de la comtesse et des parents éplorés, les documents situent ce nombre entre 50 et 100. C'est certes épouvantable, mais nous sommes loin des 600 victimes, généralement attribuées à la comtesse. Ce chiffre de 600 ne se retrouve que dans un seul témoignage. Durant le procès de la maîtresse de Kastich, une servante, non accusée, a juré avoir vu un journal où la comtesse aurait rapporté le nom de chacune de ses victimes. La servante en aurait dénombré au moins 600. C'est bien sûr ce nombre extravagant qui a été retenu par les chroniqueurs pour mieux diaboliser la comtesse. Mais les doutes sont légitimes. Difficile de croire qu'un tel journal ait existé. Il n'a d'ailleurs jamais été présenté en preuve. Et même si un tel journal avait existé, ce qui paraît encore une fois très invraisemblable, on imagine mal cette servante pénétrant dans les appartements de la comtesse pour y compter un à un le nom de toutes les victimes. Qui plus est, comment cette servante aurait-elle pu savoir que ces noms étaient ceux des victimes? On peut supposer que la comtesse n'avait pas écrit sur la couverture « Liste de mes victimes ». Entre ce témoignage unique et ceux des divers accusés, il est plus probable que le nombre des victimes ait été en deçà de 100. Et c'était plus qu'il en fallait pour faire condamner Ersebet Bathory. D'autres auteurs, plus radicaux, ont fait d'Ersebet Bathory une victime. À les en croire, la comtesse n'aurait jamais commis les crimes qu'on lui reproche, mais aurait plutôt été la victime d'un complot ourdi par ses ennemis politiques pour s'emparer de ses terres et de ses biens. Le même argument a été évoqué pour réhabiliter l'abominable maréchal français Gilles de Rais. C'est là un raccourci historique plutôt difficile à défendre.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers.
Il est vrai que de son vivant, le comte Farenc Nadasty avait prêté quelque 18 000 guldens, la monnaie principale des Pays-Bas, au roi Matthias II pour l'entretien des armées de l'Empire. Après la mort de son époux, Ersebet a multiplié les voyages à Prague et à Vienne, lieu de résidence du roi, dans l'espoir d'être remboursé. Mais en vain. L'empereur, remettant toujours à plus tard le paiement de sa dette, une véritable fortune pour l'époque. Ce retard, combiné aux dépenses extravagantes engendrées par le recrutement de nouvelles servantes, a éventuellement obligé la comtesse à vendre plusieurs de ses propriétés, dont, en 1607, son château de Bekov pour 2000 guldens. En arrêtant la comtesse, et surtout en prouvant sa culpabilité, une partie de ses propriétés tombait sous tutelle, et du coup, le roi se trouvait libéré de sa dette. Vu sous cet angle, le scénario du complot paraît vraisemblable, mais c'est faire fi d'un ensemble de détails historiques. À commencer par les aveux de ses complices et les dépositions des témoins. Même si certains auteurs ont préféré rejeter les aveux des acolytes de la comtesse, sous prétexte qu'ils avaient été obtenus sous la torture, une décision plutôt pratique, comment ignorer les récits des centaines de témoins, incluant de nombreuses servantes de la comtesse, qui sont venues raconter ce qui se passait derrière les murs de Kachetiche, de Bekov ou de sa maison de Vienne? Ces témoins n'avaient rien à gagner de ces procès. Qui plus est, en dénonçant ouvertement les actions de la comtesse, une aristocrate liée à l'une des plus puissantes familles de Hongrie, ces témoins risquaient l'ostracisme de leur communauté. Que dire aussi des cadavres, bien réels, découverts dans le manoir de Kachetiche lors de la rafle du Lord Palatin? Il est certain que la condamnation d'Ersebet Bathory a servi les intérêts politiques, sinon financiers, de ses ennemis. Mais imaginez que ces crimes n'aient été qu'une supercherie pour servir cet invraisemblable complot relève du délire. Mais alors, pourquoi Ersebet Bathory a-t-elle commis tous ces crimes? Hélas, la réponse est d'une banalité bouleversante. C'est cette même réponse qu'ont servi à leurs juges les Richard Ramirez, John Wayne Gacy ou les sadiques tortionnaires d'Auschwitz ou de Treblinka. Pour le plaisir. Malgré les siècles, la comtesse Bathory continue de fasciner. Et ce, à mes égards. D'abord, elle apparaît comme une exception dans l'univers des tueurs en série, un univers réservé presque exclusivement aux hommes. Mais elle fascine surtout par son aura d'érotisme et de perversion. L'image de cette femme dominatrice, se livrant à d'étranges jeux sexuels avec ses servantes, a de quoi alimenter les plus inavouables fantasmes. Ersebet Bathory est non seulement l'un des pires assassins de l'histoire, mais elle est aussi l'incarnation au superlatif du fétichisme et du sadomasochisme. Son histoire nous plonge dans l'imaginaire érotique, où l'issue, aussi macabre soit-elle, est obligatoirement la satisfaction du plaisir. Un plaisir dont nous sommes des voyeurs impénitents.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
C'est 23.